Alors, bien, nous allons commencer cette rencontre qui va durer environ une heure avec Jérôme Millon. Jérôme Millon qui a, comment dire, la particularité de posséder une maison d'édition à son nom, une maison d'édition dont vous trouverez le catalogue, tu nous en laisseras, oui. Un catalogue particulier, un catalogue d'une grande exigence et un catalogue dans lequel on n'entre pas si facilement que ça. Je me souviens d'une discussion que nous avions eue dans une cuisine au moment où tu avais des difficultés qui t'ont... Et le livre qui t'a sauvé de ces difficultés n'est pas un livre facile.
Non, les difficultés sont toujours là.
Et les difficultés sont toujours là. Alors, on va y venir. Et on va aussi... on est là aussi pour... parler d'un roman que Jérôme Millon a écrit qui s'appelle Vie et destin de Célestin Arepo. Alors, là-dessus, je dirais juste deux choses. La première chose, c'est que ce texte a été publié à La Fosse aux Ours, dont l'éditeur est juste derrière, l'homme qui est dans la fosse, là-bas, là, Pierre-Jean Balzan, qui a publié, entre autres, je vous conseille aussi de le lire, Mario Rigoni Stern et beaucoup de fonds italiens et aussi bien entendu Philippe Fusaro que pour certains d'entre vous j'espère vous connaissez. Les ouvrages publiés par Pierre-Jean Balzan sont des ouvrages d'une très bonne facture, un papier choisi avant. Dans le jeune temps, les vignettes étaient collées sur la couverture, je vois qu'elles ne sont plus collées. Tous dégradent. Et donc, puisque tous dégradaient et que justement le texte que tu publies est un texte qui ne se dégrade pas, puisque c'est un texte d'une écriture et d'une exigence d'écriture particulière, je peux en dire beaucoup, mais peut-être qu'il vaudrait mieux que tu commences comme on en est convenu par ce que tu fais dans ta maison d'édition.
Voilà, appuie sur le bouton rouge. Voilà, comme ça, là vous m'entendez. Bonjour, merci d'être venu. Effectivement, je vais commencer à parler un peu de la maison d'édition qui fêtera ses 30 ans l'année prochaine. Il va m'arriver de dire je, parce que la maison d'édition s'appelle Jérôme Millon comme mon nom, mais sachez que nous sommes deux et que dans ce jeu, il faut comprendre la place, prendre aussi la place de Marie-Claude, ma compagne, qui on n'est que deux dans la maison d'édition. Voilà, donc ça a 30 ans. Il y a 400 titres au catalogue, on a fait 3 distributeurs, ça vous parle peut-être puisqu'on est chez des professionnels, donc on a fait Distique au début qui était un distributeur qui n'assurait que la distribution et pas la diffusion, donc c'est moi qui faisais la tournée en France, en Belgique, en Suisse avec ma petite voiture pour porter la bonne nouvelle. Ensuite nous avons été pris par Harmonia Mundi, les presses universitaires de France sont venues nous chercher. Et on a été diffusé par les PUF et on les a quittés pour retourner chez Harmonia Mundi depuis 2000. Alors le catalogue, mon parcours personnel, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus. J'ai une petite licence de philo et une maîtrise de sociologie. J'ai perdu pas mal de temps. J'ai eu la chance de travailler avec un excellent libraire à Grenoble qui s'appelle Jacques Pruner. À la librairie université, disons que le travail en librairie m'a bien plu pendant 2-3 ans, puis je m'en suis un petit peu lassé, et la maison d'édition est partie sur une, pas une blague, mais enfin une phrase comme ça. J'ai dit un jour à Jacques, et si on faisait une maison d'édition, parce que je voyais des éditeurs qui me plaisaient bien, comme Gérard Montfort, des gens qui faisaient un peu des rééditions de qualité, tout ça, et Jacques m'a donné confiance, et je dois dire que c'est très important de donner de la confiance, ça vous oblige. Et Jacques, il m'a même suggéré le premier titre, c'était l'autobiographie de la possédée de Loudun, Sœur Jeanne des Anges. C'est cette histoire de possession sous Richelieu qui était intéressante parce qu'elle était au carrefour de l'histoire de la religion, l'histoire politique, puisqu'il y a eu un curé qui s'est fait brûler, Urbain Grandier, qui avait été accusé de sorcellerie. Enfin, c'est tout un courant d'Ursuline qui est devenu très hystérique. Et l'édition que me proposait Jacques Pruner, c'était très intéressant, c'était tiré de la bibliothèque diabolique de Bournonville et ça a été édité par des élèves de Charcot. Il y avait une préface de Charcot et des élèves de Charcot qui, à chaque fois que Sœur Jeanne des Anges présentait un signe curieux, comme des stigmates ou des choses comme ça. Alors tout de suite, il y avait la rationalité qui arrivait des psychiatres qui mettaient, ça devait trop les inquiéter, donc ils mettaient une note, les hystériques ont sur une peau très sensible, donc si on écrit dessus avec un ongle, ça fait un bourrelet, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je m'exprime comme ça, j'ai l'impression qu'il me dit que Jacques me propose quelque chose et je dis oui. Mais il se trouve que c'est tombé pile sur mes préoccupations, évidemment, parce que je suis pas un prestataire de service. Donc il fallait que ça réponde à ma sensibilité. Moi, je suis fils de psychiatre. J'avais toujours entendu parler donc de psychiatrie à la maison. Et par contre, j'ignorais cette histoire de possession de Doudin. J'ai trouvé son idée extrêmement formidablement juste et intéressante, parce qu'on touchait à la fois l'histoire de la religion, l'histoire politique, l'histoire de la psychiatrie. Et voilà. Donc c'est parti comme ça. Je ne vais pas aller trop dans les détails. Donc mon catalogue, notre catalogue, Marie-Claude et moi, est constitué principalement de textes de sciences humaines. Hein. Vous trouverez peut-être 4 ou 5 romans, c'est parce que nous sommes partenaires de Voiron, où il y a une très belle manifestation autour du livre chaque année. Vraiment, c'est très bien ce qu'ils font. Je fais la pub ici parce que c'est pas un salon du livre, c'est une manifestation autour du livre, et nous sommes prestataires, donc on édite l'ouvrage de l'invité d'honneur. Donc le premier, c'était Pierre Péju, après on a eu Didier Deninx, et puis etc. etc. Donc chaque année, on édite l'invité d'honneur, mais vraiment c'est tout à fait marginal. Et alors vous voyez là que ça nous échappe complètement, puisque c'est Voiron qui choisit l'invité d'honneur, et ensuite on le publie. Donc le catalogue, il est fait, il y a une grosse colonne vertébrale d'une collection qui s'appelle Crisis, qui est une collection de philosophie, en particulier axée sur la philosophie allemande et ce qu'on appelle la phénoménologie, dont le maître d'œuvre était Edmond Husserl. Et ça aussi, c'est bon, je raconterai pas le détail de savoir comment c'est arrivé dans notre catalogue, mais nous avons publié déjà un philosophe très important, belge, qui travaille dans la discrétion et la grande discrétion, mais qui est un vrai philosophe, qui s'appelle Marc Richir, et très rapidement, on lui a proposé d'être directeur de collection, parce que visiblement, il était au courant de toutes les bonnes thèses, etc. Donc Richir dirige une collection de philosophie où on a à peu près 80 titres. On publie beaucoup de traductions de l'allemand, Husserl, Schelling, des textes sur Heidegger, de phénoménologie principalement. Je dirai un mot après sur les directeurs de collection. Ensuite, on a, donc, quand on a publié sur Jeanne des Anges, très vite, Claude-Louis Combet, qui est un écrivain de Besançon, qui a un parcours intéressant et qui est assez singulier dans son écriture et les thèmes qu'il développe. Tout de suite, lui, il attendait qu'un éditeur prenne un peu l'axe de la part d'ombre de la religion catholique, c'est-à-dire les textes un peu marginaux, comme les autobiographies de mystiques, les traités d'inquisition, etc. Et c'est ce qu'on fait dans cette collection qui s'appelle Atopia, qui est un mot qui vient de Michel de Certeau. La mystique étant atopique, elle n'a pas de lieu, donc c'est pour ça que la collection s'appelle comme ça. Donc Claude-Louis Combet avait déjà, lui, 10 ou 12 titres d'avance pour nous proposer la quiétiste Madame Guyon, etc. Il avait déjà tout un programme éditorial, et il a pris place une place très importante, et il dirige une collection. Alors là, dans Atopia, on a publié l'œuvre latine de Pétrarque, par exemple, bilingue, latin-français, mais aussi beaucoup de mystiques. Ça les mystiques m'intéressent beaucoup. Personnellement, j'ai pas du tout baigné dans la tradition chrétienne dans ma famille, ce qui me donne une très grande liberté d'approcher ces thèmes de la transcendance et avec une grande liberté, une grande curiosité. J'ai des amis qu'on est obligé à aller à la, je sais plus comment on appelle ça quand on est petit, qu'on va à la catéchisme, merci. Donc ils en ont eu un rejet total, ils veulent plus jamais entendre parler dès qu'il y a le mot Dieu, prière, Christ, etc. Ça les fait frémir. Alors que moi je suis parfaitement tranquille avec tout ça et très très intéressé, même, puisque j'ai jamais fréquenté tout ça, tout ce monde-là, et je le vois avec un œil un peu d'ethnologue et de poète. Vous voyez, c'est plutôt qu'une question de la foi, bien que ça m'intéresse beaucoup, la foi. Donc cette collection, elle s'est fait remarquer, parce que d'habitude les éditeurs de textes religieux, Le Cerf, Desclée de Brouwer, MAM, Teki, tout ça, c'est pesant, quoi. Alors que nous, ben, à la fois on traduit du latin ou de l'italien, Marie-Madeleine de Pazzi ou Madame Guillon, et puis on a la dissertation sur les vampires, le seul texte de vampirologie existant d'un abbé qui a rassemblé tout ce qui s'écrivait au début du 18e sur la vampirologie. On a un traité pour torturer les chrétiens, quand même, c'est quelque chose, avec des gravures. On a le plus célèbre traité de sorcellerie existant, le Maleus Maleficarum, le marteau des sorcières. On en a la 4e ou la 5e réédition, on en vend 35 par mois, ce qui est monumental. Enfin, c'est un petit éditeur qui vous parle, hein. Je veux dire, par là, pour nous, c'est énorme, 35 par mois. On a un abrégé du manuel des inquisiteurs, on a des tas de choses comme ça. Donc, on est inclassable. Et c'est notre grande liberté à Marie-Claude et à moi, parce que la maison d'édition nous appartient à 100%, notre compte à rendre à personne, et on travaille dans la plus grande liberté. Et il y a Louis Combet, après il y a quelqu'un qui est venu pour nous proposer un colloque sur le rire des Grecs, qui s'est tenu à Grenoble. J'ai vu que cette femme-là connaissait la musique, elle connaissait aussi les grandes thèses qui se publiaient, et on a ouvert une collection sur l'antiquité gréco-latine, parce que c'est un domaine qui me fait rêver, mais moi, d'un point de vue romantique, hein. Enfin, romantique, il n'y a pas de jeu de mots, quoi. Je veux dire, je serais plutôt que filme bien Les Voyageurs du 19e, par exemple. J'aime beaucoup ça, car les ruines, il y a encore des ronces, ou même Jacques Lacarrière qui est allé monter une pièce de théâtre alors qu'il fallait débroussailler les arènes, l'amphithéâtre. Il fallait qu'ils enlèvent les ronces. Moi, ça me fait rêver. Ça, c'est dans l'été grec qui raconte ça. Moi, c'est mon plaisir, c'est ma rêverie personnelle, hein. Je cherche pas de vérité, de science dans tout ça. Sachez que le catalogue, il est vraiment, bon, vous avez dit, tu as dit, pardon, très exigeant. Et nous, s'il y a de la qualité, c'est aussi évidemment grâce au directeur de collection. Car je pourrais m'interroger sur Husserl, la phénoménologie de Husserl. Je vais être un peu bref là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que la caution intellectuelle et cultivée, ou je sais pas comment dire, des collections, ce sont les directeurs de collection qui maîtrisent. C'est eux qui iront sur le front à France Culture un jour s'il s'agit de débattre de la phénoménologie de Patochka ou de Husserl. C'est pas moi. Mais on a des bons généraux, c'est ce que je veux dire. Si on a fait une bonne maison d'édition, et après 30 ans, je crois que c'est un peu reconnu comme tel, c'est vrai que c'est grâce aux directeurs de collection, avec qui on n'a que des rapports de sympathie, parce qu'on travaille que comme ça. Voilà, donc il y a une fois, on a eu une collection, ça nous passait vraiment là beaucoup trop au-dessus du chapeau, c'était que des professeurs au Collège de France. Là vraiment, autant je vois à peu près ce qu'on fait en phénoménologie, autant là, cette collection-là, on l'a arrêtée, en plus, bon, voilà. On a une petite collection sur les voyages, on a publié un inédit de Christophe Colomb, on a publié la première traduction au monde de la Cosmographia Introductio, texte de 1507 publié à la demande du duc de Lorraine au vu des voyages d'Amerigo Vespucci. C'est la première fois au monde qu'on prend le prénom d'Amerigo Vespucci, qu'on le féminise en America pour le mettre sur une carte. Le mot Amérique, il vient de Saint-Dié-des-Vosges en 1507 dans la Cosmographia Introductio. C'est pour ça qu'il y a un salon de géographie chaque année. Et ça n'a jamais été traduit. C'est incroyable. C'est une petite maison d'édition de Grenoble qui publie l'acte de baptême de l'Amérique, la Cosmographia Introductio. Voilà, donc ça, on a aussi publié un livre de Hegel qui raconte une marche à pied qu'il a fait. Donc là, il y a eu un petit papier dans l'IB qui me faisait rire. C'était de la phénoménologie de l'esprit aux ampoules aux pieds. Bon, je ne vais pas vous parler des 400 titres, hein. Mais ce que je
par exemple, oui, qui, voilà, on redécouvre, oui, aujourd'hui,
oui.
Et en effet,
en parcourant le catalogue, il y a absolument, quels que soient les centres d'intérêt que nous puissions avoir, il y a forcément du miel pour chacun. Moi, en reparcourant, et je me dis, mais c'est pas vrai, ils ont publié Simondon. Ben oui, vous avez publié Simondon.
Oui, la thèse intégrale de Simondon sur les objets techniques. Oui.
Voilà.
Qu'on vient de réimprimer et qui se vend très bien. Alors c'est indigeste, c'est incroyable, c'est des pages à 3500 signes, 4000 signes, je parle technique.
Mais oui.
Je parle à des professionnels. Non, déjà, quand vous avez une page comme ça, c'est un peu décourageant. Et puis, bon, c'est dense, hein, Simondon. Et ça se vend très bien.
Ça se vend très bien. C'est une véritable pensée profonde sur l'objet technique. Mm-hmm. Voilà. Et qu'effectivement, on redécouvre un peu aujourd'hui. Et donc.
C'est ce qui se vend bien, c'est le mode d'existence des objets techniques. J'ai oublié qu'il y a un grand classique.
Enfin, qui se vend bien. Et donc, il faut quand même que tu nous parles, que tu nous dises deux mots de ce qui a été sans doute ton best-seller des dernières années.
Le dictionnaire des sentences latines et grecques, oui. On a publié une édition très augmentée, parce qu'il y a 800 pages de plus que l'édition italienne. Donc, vous avez compris que c'était une édition qui est parue en Italie. C'est un professeur de philologie qui s'appelle Renzo Tosi. Qui passe sa vie à chercher l'origine des expressions qu'on emploie dans l'Occident, comme prendre le taureau par les cornes, les rats quittent le navire, aller à Jacta Est, etc. Et il en cherche l'origine dans les textes de l'Antiquité. Et il va vous dire, prendre le taureau par les cornes, ça vient de Strabon dans tel texte. Et vous savez que l'Antiquité est codifiée, je veux dire, hein, il y a une espèce de code international, on dit 3,3 en romain, 3 en dur, ça veut dire le tome 3, chapitre 3 ou verset 3, ou je ne sais plus exactement. Mais donc il a fait un travail absolument d'érudition, absolument monumental. Il y a 2250 sentences. L'ouvrage fait 200 pages, et on a fait un effort sur le prix.
1700 pages,
on l'a mis à 29 euros. Et on a eu la chance d'avoir un texte d'Umberto Eco en ouverture, ce qui nous a beaucoup aidé. Puis on a eu toute la presse. Voilà, on a eu l'ouverture du cahier livre de Libération, on a eu une demi-page dans Le Monde, la une de La Croix, 3 ou 4 émissions à France Culture. On en a vendu 14 000. Je passerai sur les problèmes qu'on a eu en interne au niveau de la traduction. Mais c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qui nous a un peu sorti de l'ornière, parce que financièrement, une maison d'édition comme la nôtre a pu tenir longtemps parce que j'ai fait beaucoup de travail pour des confrères. Ça va peut-être vous parler, mais j'ai fait du flashage, je ne sais pas si ça vous parle, j'ai fait de la PRO, du flashage, et pour énormément de confrères, le Serpent à Plumes, Liana Lévy, les presses de Grenoble, etc., etc. Et ça nous a donné un peu de trésorerie pour pouvoir développer cette liberté dans le catalogue qui, on se souciait peu de la rentabilité. C'est pour ça que maintenant, c'est un catalogue difficile. Voilà. Encore, je rajoute un mot sur la difficulté du catalogue. Moi, j'ai toujours dit que c'était beaucoup plus difficile de faire ce que fait Pierre-Jean Balzan, la fosse aux ours, c'est-à-dire de la littérature, plutôt que de publier Husserl. Quand vous publiez Husserl, vous tirez à 700 ou à 1000 exemplaires. Un jour, j'ai pris la grosse tête, j'en ai tiré 3000 parce que c'était de la réduction phénoménologique, qui est le cœur de la phénoménologie, c'est cette fameuse réduction phénoménologique. J'ai fait 3000, mais j'ai fait une erreur. Il n'y a pas 3000 lecteurs pour ça. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, on peut adapter très facilement les tirages par rapport aux espérances de vente. Quand vous faites un roman, si l'auteur n'en écrit plus, s'il n'a pas eu de presse, vous allez dire au représentant Harmonia Mundi, on est tous les deux chez Harmonia Mundi, c'est le plus beau roman de l'année, c'est génial, faut en mettre, les représentants c'est tous des copains, ils nous croient, ils disent d'accord, le libraire du coup au lieu d'en prendre 3, va en prendre 5, 6, va faire une petite pile, si jamais ça se vend pas, il n'y a pas une ligne de presse. Et vous avez 80% de retour, c'est-à-dire que l'éditeur de littérature, il va tirer à 3000, il va avoir 2000 retours, et puis c'est fini. 10 ans après, ça ne bougera même pas d'un exemplaire. Vous faites le Marteau des sorcières, Simondon, Renzo Tosi dont je parle, on en vendra tout le temps. On a fait le journal de santé de Louis XIV tenu par ses médecins, dans 20 ans on en vend, si on est toujours là. Mais voilà, donc les sensibilités qui sont développées par le catalogue... Si vous voulez, il y a matière à imaginaire, c'est ce que je dirais. Hein. Pour ce qui est des textes religieux un peu marginaux dont je parle, la phénoménologie aussi, c'est quand même pas le positivisme logique, c'est comme aussi une approche de la métaphysique un petit peu poétique. Un peu, c'est vrai, Heidegger, c'est un peu poétique parfois.
Et, parfois.
Pas tout le temps. Pas tout le temps, non, mais si, la première page de la lettre sur l'humanisme, moi j'ai travaillé avec un prof, une année, il nous a fait sur une page, c'est pas bien ça. Première page. Non, ce que je veux dire par là, c'est que on est, Marie-Claude et moi, imbibés un peu d'imaginaire, de transcendance, un peu de folie, comme ça. Et je vais maintenant parler de Célestin, alors, peut-être.
Donc, comme le rappelait le Jérôme, mais ce que tu nous avais dit au mois de juillet dernier, quand on t'avait invité ici.
J'ai dit la même chose devant les
mêmes. Non, pas les mêmes. C'était pas les mêmes. Et c'est pas grave de se répéter. Après tout, ça prouve bien qu'on a des convictions et qu'on ne change pas la vie toutes les semaines. Voilà. C'était ça, c'est-à-dire, moi, ce qui m'avait vraiment convaincu, je trouvais l'argument absolument imparable, on publie des sciences humaines et sociales parce qu'on connaît notre public. On sait qu'on va tirer à 400, oui. 500, interroger voilà. François Gèze à la découverte, interroger, enfin, on voit bien les titres que nous publions. Ici, on sait qu'on va en vendre 700, 800, au mieux 1000, et parfois on se plante, et parfois on se plante dans le bon ou dans le mauvais sens. Et donc tu tiens ce discours qui me semble tout à fait logique, et tu dis en effet, par rapport à un jeune éditeur qui viendrait me voir et qui me demanderait que dois-je publier des sciences humaines et sociales. Tu nous quittes, et une semaine après, je vois avis de parution, Jérôme Millon, premier roman. Et donc c'était quand même un peu
compliqué. Ah oui.
Donc, évidemment... évidemment, voilà, donc on lit, on nous sommes plusieurs à avoir lu ton texte, qui est un texte court, qui fait 123 pages, mais dense, et très, et du coup, que j'ai dû lire au moins deux fois, sinon deux fois et demi, très étrange et très particulier, qui est très lié, en fait c'est ça la clé, à ton catalogue, et aux publications du catalogue. Alors, qu'est-ce que c'est que ce roman Vie et destin de Célestin Arépaud. J'en parle un peu, et puis, bien entendu, tu complètes, parce que là, pour le coup, d'éditeur, tu vas passer à auteur. C'est un texte très étrange, dans la mesure où c'est la vie d'un personnage qui commence un peu comme un personnage d'Henri Calais ou de Georges Navel, donc un personnage du début du XXe siècle, né en 1900, qui est un personnage avec une vie d'une grande humilité, pour pas dire plus, comptable dans une entreprise. On voit bien le travail à la fois fastidieux, répétitif, sans grande envergure
de l'imaginaire.
Oui, voilà, bien sûr, complètement bridé, complètement inhibé. Et il rencontre un certain nombre de personnages. Le premier est un gardien de cimetière, on peut quand même trouver un peu plus drôle, mais enfin finalement, avec qui, petit à petit, vont s'affiner un certain nombre de sentiments, oui, enfin, s'exacerber des sentiments amicaux, sa future compagne, et donc, à partir de ces personnages qui vont petit à petit apparaître, on voit aussi se densifier ce personnage qui prend, à partir d'une simple question « Êtes-vous croyant ?», une dimension à la fois sans doute mystique, mais pas seulement, qui, à travers une écriture très belle, très maîtrisée, qui nous emmène un peu au-delà de cette espèce de, comment dire, de vie quotidienne, qui parfois nous est très quotidienne. Donc après j'ai d'autres questions à poser sur les influences multiples, variées,
Vas-y. Je vais en parler un peu. Donc ce que je voudrais dire d'emblée, c'est que j'ai jamais eu envie d'écrire une ligne. Jamais. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Jamais. Et puis j'ai un vrai bazar que Pierre-Jean Balzan avait bien apprécié, c'est mon entrepôt de stockage de livres. Et j'ai une bibliothèque qui traîne avec des ouvrages, et j'ai mis la main sur Siddhartha d'Hermanès, et que j'avais lu dans les années 70, quoi. Ça se lisait bien à cette époque-là. Je lis, je vois Siddhartha, je dis tiens, c'était pas mal ça, je vais relire Siddhartha. Je lis Siddhartha, et vraiment, ça m'a été ébloui, quoi. J'ai dit, mais c'était quand même vraiment bien, quoi. On lisait ça parce que, à l'époque, bon, c'était un peu Baba Cool et Siddhartha, bon, ça allait bien. Mais il avait fait aussi, son grand best-seller, là, Le Loup des Steppes, que j'avais lu aussi. Je relis Le Loup des Steppes, et j'ai dit, quand même, c'est quand même assez formidable. Je m'intéresse à Hermanès, et je lis tout Hermanès, c'est-à-dire à la suite, les uns des autres. J'en ai lu 12 ou 13, je sais pas combien. J'ai pas lu sa correspondance, et j'ai été absolument ébloui. Je trouvais ça magnifique. J'ai même lu son énorme Jeu des perles de verre. Oui. C'est tout le long, les Hermanès, là-dedans. Je parlais de Simon Nong, les pages font un peu peur, mais là, Hermanès, le Jeu des perles de verre, c'est pareil. Son épage énorme, sans alinéa, c'est très, très, très dense, mais c'est absolument merveilleux. Et ce qui m'a paru de merveilleux, c'est qu'il n'y a pas d'action. Comment expliquer ça? c'est au-delà de l'action, quoi. C'est vraiment de la littérature, c'est que de la littérature. Et pour moi, qui est très très peu lu dans ma vie, ça a été ébloui. Je me dis, mais comment ils font pour me parler à moi? C'est pas conceptuel, ça me parle de pas grand chose, parce qu'on sait même pas ce que c'est que le jeu des perles de verre, jamais ils en parlent. Alors je m'invente mon histoire de ce que ça peut être, parce qu'on ne sait pas en fait. Le maître du jeu des perles de verre, mais on sait toujours pas ce que c'est. Enfin, et au-delà de ça, cette écriture, vraiment, j'ai trouvé ça absolument merveilleux. Et ben, je vous donne un conseil, il faut écouter sa naïveté, il faut pas s'embarrasser, il faut essayer de faire des choses. Hein? Bon. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille blanche et je me suis dit, je vais essayer d'écrire, ça doit être extraordinaire. Parce que là, moi ce que j'avais ressenti en lisant cet auteur, c'est quelque chose qui parle à mes fibres corporelles, c'est ma sensibilité, on va parler comme ça, mais ce sont des mots, pourtant ça parle pas de grand chose. Et j'ai dit, ça serait formidable. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, quand j'étais travaillé à la Libre Université, je trouvais ça vraiment formidable d'être éditeur bien avant. J'ai trouvé ça extraordinaire, les gens qui mettaient des notes en bas de page, des index, tout ça. Et puis bon, voilà, il se trouve que j'ai fait les auditions. Et donc, en lisant, je me suis dit, je vais essayer. Bon, on va être loin du compte, mais le premier texte sur lequel j'avais... La première chose que je voulais faire, c'était écrire sur la bataille de Salamine, en moins 480. On est quand même loin de mon roman. C'est la bataille entre les Perses et Thémistocle et les Athéniens. Une extraordinaire bataille navale qui s'est déroulée sous les yeux de Xerxès, qui avait mis son trône au-dessus de Salamine. C'est une île. Hein. Alors là, j'imaginais les trirèmes en train de se rentrer dedans. Donc je me suis documenté sur les batailles navales et tout. Ça me faisait complètement rêver. Je suis un rêveur. Hein. Et qu'est-ce qui m'intéressait là-dedans? C'est que Salamine, c'est juste en dessous des mystères d'Eleusis, qui sont des mystères. C'est une religion à mystères. C'est tellement bien gardé qu'on n'en sait rien, d'ailleurs. Je crois que j'ai trouvé un livre aux belles lettres là-dessus. Plus haut, vous avez Delphes, où on interrogeait la Pythie, et il y a la source sacrée de Castalie à Delphes. Castalie, qui est l'endroit où se passe le jeu des perles de verre. Peu importe, mais bon, voilà, ça, Delphes, j'avais pas mal lu là-dessus, sur l'oracle de Delphes. Et juste en face, vous avez le temple d'Asclépios à Épidaure. C'est le temple où on allait se soigner, c'est-à-dire que la nuit, on allait tous dormir sous une télos, c'est comme ça qu'on appelle, c'est un temple circulaire, et on était visité par le serpent. C'est pour ça que c'est le serpent du caducée sur les médecins. Et donc, vous voyez qu'il y a de l'imaginaire, il y a du symbolique, il y a de quoi faire, quoi. Donc, je voulais faire mon personnage comme ça, qui navigue là-dedans. Et j'ai écrit une page que j'ai trouvée pas mal, et puis la deuxième, c'était vraiment mauvais. Pas bien, ça ressemblait plus au Club des Cinq qu'à Hermanès. Et j'ai dit, bon, Jérôme, arrête les frais, il faut faire quelque chose. Donc, en fait, ce que j'ai fait, j'ai dit, il faut que je fasse des exercices. Et là, on va bientôt retrouver mon Célestin. Donc, mon idée, c'était de prendre une pâte molle, enfin, une espèce de pâte informe, et puis de le manipuler. Donc, j'avais envie de faire un personnage extrêmement gris, triste et monotone, et puis qu'il va lui arriver quelque chose qui va faire qu'il va vouloir changer de vie, changer de personnalité, manger le monde autrement. Bien que je me moque souvent de ce qu'on trouve dans toute cette littérature de développement personnel, pour moi, ça, c'est un grand mystère de penser que je vais lire trois bouquins, je vais me changer, ça se comprend pas bien. Donc, j'avais comme ça un peu d'ironie, envie de faire quelque chose, et donc, je me suis dit, mon bonhomme, il va aimer les mots croisés. Moi, j'en fais pas, mais je vous expliquerai pourquoi je suis sensible à ça. Et il va aimer les mots croisés, sauf qu'un jour, dans le journal, il va voir à gauche une sentence. Et j'avais le choix, hein. Je vous ai dit, on a publié un livre, il y en a 2300. Et donc, il va se dire, il va entendre de lui qu'on parle de lui en mal, qu'il est falot, et il va se dire, bon, faut que je change. Donc, comme il voit une sentence, il va vivre une semaine sur une sentence. Il va se forcer. Alors, là, j'aurais pu en trouver des sympas, quoi. Donc, il va essayer comme ça de modifier son comportement par rapport à un choix qu'il va faire dans une sentence. Et ça me fera mes exercices. Voilà. Donc, j'aurais fait, voilà, vous voyez, des gammes, quoi, à partir de ce thème-là. Et puis, le problème, c'est que ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mon personnage. Je lui ai fait son lieu de travail, je l'ai bien fait monotone, bien gris, bien sans aspérité, bien rien, et puis il a commencé à vivre un peu tout seul. C'est vrai. je ne sais plus du tout aller dans cette direction-là. Et après, ben, je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Donc mon personnage, je voulais qu'il se passe quelque chose. En fait, ce qui se passe, à un moment, peut-être vous le lirez, et puis merci, je vous le dis, c'est pas grave, de dire avance, à un moment, il va rencontrer une femme. Il avait déjà une expérience, mais qui était malheureuse. Il a mis ça aux oubliettes, ça ne l'intéresse pas du tout. Mais là, il y a une femme, et elle lui pose une question. Elle lui dit, êtes-vous croyant ? Et à partir de là, j'ai pu développer... Je me suis fait vraiment plaisir, quoi, parce que c'est une question très difficile de répondre à ça. Mmh. Moi, je sais pas ce que c'est que la foi. J'ai pas baigné, donc je vous ai dit, dans ce monde-là. C'est une interrogation totale pour moi, ça. Et donc, j'ai essayé de traiter, à partir de ce moment-là, des grandes questions. C'est-à-dire que j'ai la foi, donc il est complètement paumé, mon personnage. Il va demander de l'aide à son copain qui est gardien de cimetière. Il l'a rencontré parce qu'il voulait déjà acheter sa tombe, alors qu'il avait qu'une 40 années. Mais il voulait être prévoyant, vous voyez ce que je veux dire. Donc,
comptable
même de son éternité, bien que ce soit assez drôle de penser qu'il y a éternité dans les tombes, mais bon. Et donc, il voit son ami, écoute, je vais à la pêche. Je vais l'emmener à la pêche, quoi. Je ne sais plus si je raconte dans le bonheur, peu importe. Donc, et à la pêche, qu'est-ce qui va se passer ? Il va voir des nuages, et d'un seul coup, c'est comme si on passait, vous savez, dans ces films du noir et blanc, on passe à la couleur. D'un seul coup, il va voir qu'il n'y a pas que les chiffres dans la vie et la reproduction du même, parce que son père avait le même siège de comptable dans la même usine. Et d'un seul coup, il voit le monde complètement différemment. Il est sensible à tout, quoi, aux odeurs, aux bruits, il voit ses copains de travail, il voit l'usine complètement différemment, et il s'est ouvert au monde. Et c'est là que on rentre dans une autre partie du roman, c'est-à-dire que, si vous voulez, il veut habiter ce monde, il veut l'habiter, mais maintenant avec de la vérité, quoi. Il veut être dans le vrai. Parce que c'est comme s'il était entre parenthèses, qu'il s'était maintenu par peur un peu de marcher, vous savez, quand on tâte l'eau comme ça, il avait peur de ne pas savoir nager, on va dire ça comme ça. Mais maintenant, il veut être sûr de ne pas se noyer, donc il veut des vérités. Et la vérité, c'est aussi une grande question qui traverse notre catalogue, que ce soit celle de la foi, de la vérité, par la philo. Et moi, ce que je me suis amusé à faire, c'est à traiter toutes ces questions lourdes, hein, la vérité, la foi, là, j'ai pas fait les choses à moitié, mais j'ai voulu les traiter de manière extrêmement légère, et avec une écriture très 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 aérienne, très aussi comme ça, très et mon personnage, donc je le confronte à un certain nombre comme ça. Donc il va aller à la salette, il va essayer de comprendre ce que c'est, mais alors là il perd les pédales complètement, disons il se prend les pieds dans le tapis. Et puis j'ai avancé petit à petit comme ça dans le roman. Alors on voit souvent qu'il y a une rupture au milieu, et c'est vrai que moi je ne pensais pas faire un roman, et j'avais fait lire ça à un ami qui m'a dit, mais Jérôme, tu ne peux pas t'arrêter là, il faut que tu continues. J'ai dit, mais je continue, je vais faire quoi ? Moi, je m'étais bien amusé, j'avais bien travaillé mon écriture, tout ça. Et je me suis dit, bon, bah, il y a une histoire d'un tableau. Hein, il voit un retable à la salette, il feuillette tout ça à la bibliothèque, il voit un retable. Et alors là, ça lui parle. D'un seul coup, ça lui parle. Il y a des sentences, on les retrouve, il y a trois sentences, il y a un tableau, et... Pierre Jean Balzan après, et ces sentences et ce retable, je me suis dit, tiens, mais ça pourrait donner la suite du roman, qui va comme ça l'a aidé, ça l'a beaucoup aidé, ce retable, ces sentences qu'il a lues. Je me suis dit, tiens, je vais inventer l'histoire de ce tableau. Il va être confronté à retrouver ce tableau beaucoup plus tard. Et puis après, ça devient un peu romanesque. Il y a un chevalier teutonique, il y a un manuscrit qu'on trouve relié avec un autre, etc., etc. Et maintenant, je voudrais juste dire trois lignes directrices. Parce qu'après coup, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai voulu faire, quoi ? C'est bizarre ce questionnement, comment ça s'est développé. Et j'ai réfléchi à trois choses. La première, c'est que j'ai fait un mémoire de maîtrise il y a longtemps sur utopie et millénarisme. C'était vraiment assez bateau, quoi, comme thématique. L'utopie, je la voyais comme le délire paranoïaque d'un homme qui pense qu'il sait ce qui est le bien universel et qui va carrément faire une cité idéale, donc imposer aux autres sa manière de voir ce qu'est le bien, quoi. Et c'est terrible, c'est complètement anhistorique, évidemment, c'est un délire, quoi. Et le millénarisme qui, au contraire, la mise en marche d'idéologie, d'un espoir qu'on peut voir inscrit, lui, dans l'histoire, et qui va regrouper des gens autour d'une idéologie qui vont avoir le même destin, enfin le même appétit pour que le bonheur arrive, mais ça va être lent, ça va être inscrit dans l'histoire, et c'est très très différent. Donc j'avais vu ça, et je m'étais dit, mais j'avais appelé ça le paradoxe de l'utopie, parce que si on est dans ce mouvement millénariste qui va amener un bonheur pour tous, moi, ça m'a donné envie ça m'a donné envie d'aller dans les finalités. C'est-à-dire que quand quelqu'un, une idéologie, elle prône ceci, bah allons-y. Allons-y jusqu'au bout. Et c'est vrai que le jusqu'au bout du millénarisme, réalisé, c'est l'utopie. Mais l'utopie pour tout le monde, c'est pas près d'arriver, parce qu'on ne partage pas tous les mêmes idées du bonheur. Et ça, ça m'a beaucoup, ça m'intéresse toujours de, je dis souvent quelque chose tout simple, le paradis par exemple, je vais parler de ça d'une minute, le paradis. Ah oui, on a tous une idée, tiens, le paradis, c'est sympa, mais le paradis pour toi, pour moi, ça n'a rien à voir déjà. Qu'est-ce que ça va être que le paradis? Et puis, bon, j'ai peur de mourir, donc je voudrais vivre longtemps. Ah ouais? Combien? Une éternité. C'est écrit sur les tombes, une éternité. C'est formidable. Mais attends, allons-y franchement, combien tu veux vivre? Allez, 200 ans, jusqu'à là, ça va. 7000? Ça commence à faire bizarre. 70 000? 7 millions d'années? D'un seul coup, l'infini de cette éternité, ça devient une angoisse absolue. Je veux dire, c'est pas possible. C'est un enfer, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et le paradis, réfléchissez le paradis, comme c'est ce qui est le bien réalisé. Le paradis, on n'a plus d'espérance. On peut espérer en rien puisque c'est réalisé. Donc, en fait, tout ce qui crée la dynamique de la difficile condition humaine, qui est de négocier toujours avec un pôle négatif, un pôle positif, il est annihilé si on pousse les logiques jusqu'au bout. Et c'est terrifiant, d'ailleurs. Ça, c'est la première chose. Maintenant, je ne sais pas, pour toi qui l'as lu, si ça apporte quelque chose que je dis ça. La deuxième, c'est les mots croisés. La mot croisée, moi, j'en fais pas, mais ce qui me plaît, c'est la case noire. La case noire, je trouve ça extraordinaire, la case qui manque. Parce que mon père, j'ai dit qu'il était psychiatre, et il me parlait un peu de Lacan, bon, je sais pas, de la mise en place du symbolique dans la castration. C'est pas passionnant, mais bon. Et alors, il m'a fait une remarque vraiment intéressante que j'aimerais vous donner. Il m'a dit de lire un petit texte d'Ed Morty qui s'appelle Le discours et le symbole. Et là-dedans, il y a quelque chose de génial. C'est tout simple, vous allez comprendre. Il parle du jeu du taquin. Le jeu du taquin, c'est un bout de plastique, comme ça, avec dedans des lettres ou des chiffres. Et on les déplace avec le pouce pour faire des mots ou des suites de chiffres. Pourquoi ça s'articule? Pourquoi on peut articuler du signifiant pour créer du signifié? C'est parce qu'il en manque un. C'est parce qu'il y a un trou noir, c'est parce qu'il y a une castration, c'est parce qu'il y a une castration absolue. Il en manque un. Et c'est parce qu'il manque quelque chose que ça s'organise, que le désir s'organise même. Et j'ai trouvé ça vraiment très passionnant, cette petite métaphore du jeu du taquin. Et je l'ai toujours gardé dans un coin de ma tête, de dire, il faut qu'il y ait manque quelque chose pour qu'on ait du désir. C'est tout bête, c'est tout con de dire ça. C'est le béaba de la psychologie ou de la psychanalyse. Mais c'est tellement vrai. Et d'un seul coup, je me suis dit, ben, cette case noire, il faut l'interroger, il faut la faire résonner de manière un peu poétique. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qui nous fait parler tout le temps, parler? Pourquoi on parle autant? C'est incroyable, parce qu'on est bavard, surtout moi. mais c'est un puissant fond. S'il y a de l'infini, c'est dans la parole. On peut parler comme ça indéfiniment. Et cette métaphore de la case noire, j'ai essayé de la mettre dans mon personnage, avec ses mots croisés. En particulier dans le dénouement, dont on ne dira rien, mais
qui n'est pas anecdotique.
Mais qui n'est pas anecdotique. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième, c'est encore un texte de psychanalyste d'Octave Manoni dans Clé pour l'imaginaire. C'est aussi un texte, hommage à mon papa, qui m'avait fait lire ça. Ça s'appelle Je sais bien, mais quand même. Et je trouve ça formidable. Formidable. Parce que je sais bien, trop petit point, mais quand même. Souvenez-vous, quand on est gamin, et je dis ça, moi j'arrête pas de le faire, si je marche pas sur les dessins du ciment, je serai pas interrogé. Si je traverse et que le feu il reste vert, machin, tout ça, toutes ces petites choses qu'on fait, peut-être il n'y a plus que moi qui fais ça, je suis un grand enfant, tous ces petits jeux qu'on fait avec la rationalité, je trouve ça passionnant. C'est passionnant. je sais bien, on est dans la science, on est dans, je le sais, dans la vérité. Trois petits points, c'est eux qui m'intéressent. C'est les pokés de la phénoménologie, je trouve. Trois petits points, mais quand même, on va dénier complètement la rationalité. Je sais bien que si je fais ça, ça aura aucune incidence sur le fait que le prof m'interroge ou que je gagne ça ou que j'ai pas ci, etc. Mais je le fais quand même. Je trouve ça formidable. Ça ouvre à une, comment dire, à un appétit qu'on a d'irrationalité, d'imaginaire. Si on était complètement dans la vérité. Puis alors dans mon Célestin, il y a une page que j'aime beaucoup aussi sur qu'est-ce que c'est que d'avoir une idée. J'ai fait une seule page là-dessus, ça m'a absolument régalé. Voilà, donc mon personnage, il est imbibé, je l'ai vu a posteriori, de ces trois lignes de force.
Et d'ailleurs, c'est sans doute pas anecdotique que c'est un roman qui est construit, en tout cas pour moi en tant que lecteur, en trois parties. La première où on voit en effet cette espèce de personnage un peu, enfin, complètement gris, et ensuite sa première rencontre avec au moins deux personnages, Mathieu, le gardien de cimetière, et Rose, et enfin son approche plus à la fois sensible mais aussi sa quête de connaissance qui l'emmène vers une fin dont on ne parlera pas, qui est bien autre chose. C'est plus du tout le même personnage que le personnage du début, et qui se termine sur bien entendu sur sa mort. Je voudrais juste citer ce que tu dis, page 30, donc c'est la première, toute première partie. Il est encore dans son entreprise, et tu dis une bonne vie se déroulait dans un cadre dessiné par des règles apprises et acceptées une fois pour toutes. Cadre pas trop voyant, bien sûr, ni trop rigide, et dont la souplesse déterminait justement tout un art de vivre. Un bon roman, par exemple, se devait de répondre à une trame invisible au premier chapitre, dévoilée au dernier, et tout l'art du romancier se révélant dans la finesse de cette progression. Est-ce que d'une certaine façon... est-ce que tu penses avoir répondu à cette contrainte que tu te donnes au début?
Ce qui est drôle, c'est que quand j'ai écrit ça, je savais absolument pas ce que j'allais faire.
Mais bien sûr.
J'avais aucune idée. Et même le nom de Célestin Arepo, si vous lisez le livre, vous verrez qu'il a une signification. J'ai découvert ce nom, j'en avais écrit la moitié. Donc toute la suite, comment dire, j'avais aucune expérience de l'écriture, donc je savais pas du tout ce que j'allais faire. Et ça s'est construit au fur et à mesure. En mettant ça, oui, ben je sais pas ce que j'ai. Est-ce que j'ai réussi? C'est pas à moi de le dire déjà. Si j'ai fait un bon roman, je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose de dévoilé au dernier? Un petit peu.
En tout cas, cette espèce de contrainte qu'à ton insu tu te donnes. On retrouve à la fin toute une série de, une espèce de révélation.
Oui.
Je trouve que d'une certaine façon, alors je pense que tu vas ou être surpris ou ne pas être d'accord, ce roman a une forme de contrainte oulipienne.
Ah bah oui.
Et donc, bah oui, t'es d'accord.
Bon, oui, non, mais je me suis tellement amusé quand il joue avec ses dés là.
Et oui, bah voilà.
C'est oulipien, ça, oui.
C'est les mots croisés, elle a une fin complètement oulipienne.
Oui, oui.
Et donc, on peut lire ce roman d'une façon la façon du catalogue Jérôme Millon, c'est-à-dire à la fois en faisant appel à des textes à la fois aussi bien mystiques que pas mystiques, peu importe, de philosophie, mais aussi en littérature par une histoire de la littérature qui est aussi l'histoire de l'Oulipo. Moi, j'ai trouvé que ça, c'était quand on lit ce texte, quand on lit ton roman avec cette perspective-là, je trouve que ça change les choses, et ce personnage-là, comme tu le dis d'une certaine façon, en fait, dans ce roman-là, il se passe pas grand-chose. Dans notre vie quotidienne à tous, tous les jours, il se passe beaucoup plus de choses. Oui. Mais au fond, le pas grand-chose, c'est quand même ce qui va bouleverser son existence.
Oui, et puis pas grand-chose, ça dépend ce qu'on met sous le mot chose. Si on attend de la vie des choses exceptionnelles, parfois on peut être souvent déçu. Ce que j'essaye de montrer dans ce roman, c'est aussi que si on ouvre les yeux et on voit beaucoup plus que ce qu'on croyait, quoi. C'est-à-dire que la sensibilité, elle ouvre l'œil aussi. C'est un peu de la phénoménologie, encore une fois. Et Célestin, il a une vie somme toute, qui est quand même banal à la fin. Bon, il va faire un voyage organisé, c'est un peu triste, le voyage organisé. Il n'a pas d'un seul coup un destin exceptionnel. Sa vie, il va toujours être comptable, il va aller à la retraite, il va faire un voyage organisé. Je trouve que sa vie... Mais lui, en jouit plus. Il a plus, il oui. trouve plus de richesse. Et surtout, il a appris à nager. C'est-à-dire qu'il a mis le pied dans l'eau. Au début, il n'osait pas. Et puis, d'un seul coup, maintenant, il a le plaisir de nager dans sa vie, d'en profiter, d'avoir une plus grande jouissance sans avoir une accumulation ni d'expérience, ni de choses exceptionnelles. Donc, quant à Oulipo, moi, je connais un petit peu, hein, mais ça me fait rire, puisqu'il me fait rire, c'est... France Culture, parfois, j'écoute plus, mais j'écoutais pendant longtemps les Décraqués à midi, où ils s'amusent, ils se mettent des contraintes, vous savez, c'est comme... comment il s'appelle Tentative d'épuisement d'un lieu, là, qui a écrit La disparition, Pérec. Pérec, qui a quand même écrit un roman énorme, il n'y a pas la lettre E, quand même. Il faut le faire. Quand même. Ça, c'est impressionnant. Et moi, à un moment, je me suis amusé, oui. Il écrit un poème, et puis il le transforme avec des dés, comme ça.
Oui,
c'est,
voilà. Oui. Il y a donc, ça, mais pas que ça.
Oui, mais...
Il y a toute fin, pas que ça,
oui.
quand même.
Oui, oui. Puis ça, il disparaît à la fin.
Oui.
Il s'évapore.
Mais oui.
Il s'évapore. Et moi, je ne suis pas un grand connaisseur de la littérature, mais... J'ai lu, quelqu'un m'a dit, parfois on dirait un peu du queneau, ton truc, et il m'a dit, lis Pierrot mon ami. Ben voilà, si j'avais envie d'écrire quelque chose, Pierrot mon ami, là ça aurait été. C'est extraordinaire, je ne sais pas si vous connaissez
ce
roman, c'est extraordinaire. C'est dans une fête foraine, il y a un mausolée, ça n'a rien à faire là. C'est une histoire des gens qui travaillent dans cette fête foraine, mais c'est une merveille, c'est une merveille. Voilà, et donc, un mot sur lequel. Je n'ai pas parlé, c'est l'écriture. C'est incroyablement difficile. C'est incroyablement difficile. Ça dépend de l'exigence qu'on se fixe. Hein. S'il s'agit d'écrire comme ça, c'est bon, quoi. Mais si on a une exigence et que le mot, ça se règle comme une guitare, la phrase, il faut qu'elle soit accordée, quoi. Ding, 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 vous la lisez 5 fois, 10 fois, vous reprenez, vous la relisez, ding, ding, c'est pas tout à fait ça. Et d'un seul coup, paf, ça sonne juste. C'est exactement ce que vous vouliez faire. Et là, croyez-moi, c'est un plaisir, mais incroyable. Mais incroyable, c'est ça vous. Alors là, on dirait que c'est même pas vous qui avez fait ça. Je sais pas comment dire. C'est très curieux. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Je dis, non, c'est pas possible. C'était exactement ce que je voulais dire. Ça collait parfaitement. C'était une belle sonorité. Et la phrase était bien écrite. Et je le dis comme ça. Je m'en fous avec modestie ou pas. Mais ça a été un vrai bonheur. Par contre, j'ai mis 2 ans à faire ça. Et puis j'ai emmené mon ami Pierre-Jean dans l'aventure, c'est-à-dire que la première fois que je lui en ai parlé, et Dieu sait qu'on n'aime pas, entre collègues, se dire « Tiens, j'ai fait quelque chose, tu veux pas regarder ?» Donc Pierre-Jean ne déroge pas la règle, tout de suite il a été très encourageant, il m'a dit « Ah, mais Jérôme, tout, t'inquiète pas, j'ai réglé ce problème il y a longtemps, d'un air de dire « Quand ta poussée d'acné aura disparu, tu vas vite arrêter ça. » C'était très encourageant, sauf qu'il a eu il l'a lu et il l'a lu. Je riais tout à l'heure parce que sur ce retable, Pierre-Jean, à un moment, il m'a dit « Bon, il y a de la qualité, il va falloir beaucoup travailler. » Et là, je te remercie, Pierre-Jean, de m'avoir pointé toutes les faiblesses et au moins me forcer un peu à essayer de les corriger. Et puis quand il m'a dit « Mais le retable, tu l'as vu où ?» Parce que c'est un grand amateur d'art italien, de retable. Il m'a dit « Mais tu l'as vu où, ce retable ?» Et là, c'est pas gagné. Il m'avait pas dit encore qu'il était oublié. Mais je me suis dit « Bah, c'est pas mal qu'il me pose la question. » Parce qu'évidemment, j'ai tout inventé. Et puis bon, bah, après, c'est une aventure très, très bien. Parce qu'on partage le même distributeur. Et il a fait son travail. Puisqu'il m'a fait bosser. Il m'a montré là où c'était pas bon. Là où j'allais trop vite. Là où je changeais, etc. Mais c'est une expérience que j'ai vécue pour la première fois et qui m'a vraiment comblé.
Alors juste pour revenir sur ce que tu disais sur une vie à la fois d'une certaine façon de petit bonheur, hein, sans doute que c'est ça qui pourrait pour moi être la référence à Calais ou aussi sans doute à Queneau, hein, dans le Dimanche de la vie. Mathieu souligna qu'il n'y avait jamais de mauvaise pêche, que la pêche était bonne en elle-même. Patience, attention, concentration et espérance étaient les meilleures armes du pêcheur pour combattre cette notion déplacée de mauvaise pêche. Et d'une certaine façon, toute sa vie, en fait, c'est ça. C'est percevoir de façon différente. C'est pas une mauvaise vie. C'est une vie où, de temps en temps, il y a de la pêche, puis de temps en temps, il n'y en a pas.
Voilà.
Et au fond, le problème, il est un tout petit peu décalé, un tout petit peu ailleurs. Ouais. Et c'est aussi sa rencontre, en effet, avec Rose et sa rencontre avec ce retable qui, je pense que dans d'autres circonstances, n'aurait rien fait de particulier. Parce
non.
que il voit cette œuvre-là de façon tout à fait, finalement, assez, presque anecdotique. C'est par hasard. Ça l'entraîne dans des...
Ah oui, ça l'entraîne loin.
Loin, très très loin.
Très loin. Moi, j'aimerais bien...
Vas-y.
J'aime bien lire, mais il faut que je retrouve la page sur qu'est-ce que c'est que d'avoir une idée. Je ne sais pas, vous avez déjà réfléchi ce que c'est que d'avoir une idée. C'est pas évident. Hein. Pas une idée, tiens, j'ai une idée si on faisait des grillades dimanche, quoi. Mais une idée, quoi. Au sens de Platon, quoi. Et je ne sais plus où c'est. Je retrouve ça. Ah oui, c'est quand Rose lui donne les mots à rimer, voilà. Donc sa femme, il écrit des poèmes et sa femme lui donne les mots qui doivent rimer. De retour chez eux, Célestin pensa que Rose avait eu une bonne idée, en italique. Une bonne idée, occuper une place honorable dans la hiérarchie qu'il établissait sur l'échelle de la réflexion et du savoir. Une idée, avec une capitale, devait être marquée du sceau d'une certitude absolue. Et Célestin se désolait parfois de ne se sentir riche que d'opinions, d'avis, ou au mieux de convictions. Avoir une idée, avec une cape, avait quelque chose d'impérial, apanage des grands penseurs ou des hommes d'État. Il admirait cette élite, sans toutefois la jalouser, jugeant même que les opinions ou les simples avis, par leur souplesse, permettez ces petits arrangements avec soi-même qui rendent la vie plus facile. Bonne était à l'idée ce que bien était au je t'aime de l'amoureux, pas tout à fait sûr de son sentiment. Trop impressionné devant la majesté de sa déclaration, il en modère ainsi la portée comme le dièse ou le bémol altère la note. Célestin s'était toujours étonné que ces adjectifs bien et bon puissent infléchir le pouvoir d'un mot ou d'une phrase, et être même parfois à l'opposé de leur sens premier. Perdu dans sa réflexion, il y mit un terme par un sonore « c'est bien bon comme ça », pensant qu'il fallait commencer à réfléchir à son poème pour relever le défi. C'est vrai que je me suis amusé, parce que si je te dis « je t'aime », c'est fort. Si je te dis « je t'aime bien », ça n'amène rien. Au contraire, c'est un dièse, un bémol.
Ah oui.
Et bon, c'est pareil. Et c'est bien bon, c'est encore pire. Là, je me suis amusé même là. C'était un peu olympien aussi, je sais pas, s'amuser avec les mots comme ça.
Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des observations, des, je sais pas, à la fois sur l'éditeur, mais aussi sur l'auteur, le jeune auteur.
C'est quand même le premier roman. C'est comme ça que Pierre-Jean me présente tout le temps.
Mais oui,
mon jeune auteur.
Jeune auteur. Ou pas.
Est-ce que ça vous donne un peu envie de le lire? Non, en fait, ce que ça m'a fait, ça m'a rendu plus indulgent par rapport à tous les romans qu'on reçoit alors qu'on n'en publie pas. Que je regarde jamais, puisqu'on n'en fait pas à la maison d'édition. Maintenant, je vois le travail que ça représente. Et mon œil de lecteur a changé, mais au niveau de l'édition, non. Moi, d'être éditeur, ça m'a permis que les rapports entre Pierre-Jean et moi soient normaux. C'est-à-dire, je sais ce que c'est que la librairie, je sais ce qu'on peut en attendre, ce qu'on peut attendre de la presse. Je connais ça absolument par cœur. Mon métier d'éditeur, là, il n'a pas grand-chose à voir, sauf peut-être, je vous dis, dans les rapports que j'ai avec Pierre-Jean et les attentes que je peux avoir d'un premier roman en librairie. Je vois à peu près comment ça marche. Et je suis un auteur qui n'est pas trop pénible pour lui, j'espère. Quant à ma lecture, par contre, ça a beaucoup changé ma lecture. C'est-à-dire, quand je lis un roman maintenant, je vois le travail, quoi. Enfin, je vois ce que ça représente et je vois le talent. Ou je vois quand il n'y en a pas. Mais ça m'a vraiment beaucoup changé. De même, alors pour le coup, l'édition aussi, ça m'a changé ma lecture, parce que souvent on traque la faute, on traque en relisant. Et parfois maintenant quand je lis plus comme lecteur de roman, mais comme éditeur qui va chercher l'insécable qui est pas à sa place. Ça c'est tout pourri. Mais maintenant, par exemple, l'autre fois j'ouvre Lovecraft, cet auteur de, je ne sais pas, de la science-fiction, je sais pas comment on peut dire ça, d'anticipation, c'est très curieux. J'ouvre Lovecraft, j'avais lu ça il y a 40 ans quoi. J'en trouve un là, toujours comme j'avais trouvé Herman Hesse. Je le regarde, j'ouvre. Je dis, c'est incroyablement bien écrit. Vous voyez, ça m'a frappé tout de suite. Je me suis dit, mais c'est incroyablement bien écrit. Alors que quand on lit ça, quand on a 15-16 ans, 16-17 ans.
C'est pas ce qu'on regarde.
C'est pas ce qu'on regarde, voilà. C'est pas ce qu'on regarde. Et on regarde la couleur tombée du ciel, les grands Nukhshogoth, du grand Necronomicon. On a les foies, on a peur, ça fait très peur. Mais on est moins sensible à ça. Et maintenant, ça, je dis pas que je n'étais pas sensible au style, mais beaucoup moins. Maintenant, vraiment, ça m'a changé ma manière de. Et alors, la question d'un deuxième se pose pour moi, et ça me fait un peu peur, même si je suis déjà un petit peu engagé, parce que je me rends compte de la montagne de travail que ça représente. Moi, je ne pensais pas que ça représenterait un effort pareil d'écrire 120 pages, je ne m'en rendais pas compte. Surtout une fois qu'on a terminé, il faut tout reprendre, quoi.
Mais en fait, écrire un deuxième, c'est une nécessité.
C'est-à-dire que c'est tellement du plaisir aussi, oui, comme je le disais tout à l'heure, quand ça sonne juste, que vous avez vraiment trouvé un paragraphe, même si le paragraphe vous avez mis une journée entière à écrire une demi-page, et que si vraiment allait bien, c'est une satisfaction complètement personnelle. Après, heureusement, il y a le filtre qualitatif de l'éditeur qui fait son métier et qui vous remet un peu les pendules à l'heure, quoi. C'est son boulot. Mais il y a un plaisir personnel, ça c'est sûr, que je connaissais absolument pas, parce que j'avais jamais fait ça.
Bien. D'autres interventions, non? Bon, bah écoute, Jérôme, donc on va garder les catalogues que tu as eu la gentillesse de nous amener. Je vous conseille vraiment, alors, indépendamment de la lecture de ce texte, de plonger dans le catalogue des éditions Jérôme Millon, mais aussi de La Fosse aux Ours. Tu es venu avec des catalogues, Pierre-Jean? Non.
Ah, voilà. Non,
mais ah, ben voilà.
Je fais pas son boulot.
Ah, ben voilà. vous verrez que c'est quand même du miel et que, contrairement à ce que certains... Je dis ça parce que j'ai assisté à une intervention de M. Bessarbanqui lundi après-midi qui était quand même assez indigente. Il y a de grands textes publiés par des grands éditeurs, c'est pas parce qu'ils sont petits par la taille qu'ils ne sont pas grands par l'esprit. Et je pense que la confection d'un catalogue comme le tien, comme celui de Pierre-Jean, mais comme celui aussi de Chamballon, pour ne parler des éditeurs qui sont proches de notre région, mais d'autres, les éditions de l'Éclat, Gone, enfin bref, passons, prouve qu'on peut tout à fait, alors, réussir, ça c'est une chose, sans doute pas, mais en tout cas, donner au lecteur une nourriture suffisante. Lisons d'abord tout ça et on verra, on en reparlera après.
D'accord.
Merci Jérôme, merci de votre attention. Et donc vous avez ensuite, après les 5 minutes réglementaires de pause, retour ici pour une table ronde sur la science-fiction.
Merci beaucoup.